Chapitre 8. Retour à Maubuisson. Il arrive que toute une machination longuement ourdie soit compromise dès l'origine par une faille de raisonnement. Robert s'aperçut soudain que les catapultes qu'il avait si bien montées pouvaient se casser au moment de tirer, faute de sa part d'avoir songé à un ressort premier. Il avait certifié au roi son beau-frère et juré solennellement sur les Écritures que ses titres d'héritage existaient. Il avait fait établir des lettres aussi semblables que possible aux documents disparus. Il avait provoqué de nombreux témoignages pour étayer la validité de ses écrits. Toutes les chances semblaient donc rassemblées pour que ses preuves fussent agréées sans discussion. Mais il existait une personne qui savait, elle, indubitablement, que les actes étaient faux. Mao d'Artois. Puisqu'elle avait brûlé les vrais actes, ceux d'abord des registres de Paris, dérobés quelques 20 ans plus tôt grâce à des complaisances dans l'entourage de Philippe le Bel, et puis, tout récemment, les copies récupérées dans le coffre de Thierry d'Hirson. Or, si un faux peut passer pour authentique aux yeux des gens favorablement prévenus et qui n'ont jamais eu connaissance des originaux, il n'en va pas de même pour qui est averti de la falsification. Certes, Mao n'irait pas déclarer « Ces pièces sont mensongères parce que j'ai jeté au feu les bonnes !» Mais, sachant les pièces frauduleuses, elle allait tout mettre en œuvre pour le démontrer. On pouvait sur ce point lui faire confiance. L'arrestation des mesquines de la Division constituait une alerte probante. Trop de personnes déjà avaient participé à la fabrication pour qu'il ne s'en trouvât pas quelqu'une capable de trahir par peur ou par appât du gain. Si une erreur s'était glissée, comme le malheureux 1322 à la place de 1302 dans la lettre lue à Reuilly, Mao ne manquerait pas de la déceler. Les sceaux pouvaient sembler parfaits, mais Mao en exigerait le contre-examen minutieux. Et puis, le feu comte Robert II avait, comme tous les princes, l'habitude de faire mentionner dans ses actes officiels le nom du clerc qui les avait écrits. Évidemment, pour les fausses lettres, on s'était gardé de cette précision. Or, telle omission sur une seule pièce pouvait passer, mais sur quatre qu'on allait présenter. Mao aurait beau jeu à faire ouvrir les registres d'Artois. « Comparez, dirait-elle, et parmi toutes les lettres scellées par mon père, cherchez donc la main d'un de ces clercs qui ressemble à ces écritures-là. » Robert en était venu à la conclusion que ces pièces, qui avaient en son esprit valeur de vérité, ne pouvaient être utilisées que lorsque la personne qui avait fait disparaître les originaux aurait elle-même disparu. Autrement dit, son procès n'était gagné qu'à la condition que Mao fût morte. Ce n'était plus un souhait, mais une nécessité. Si Mao venait à trépasser, dit-il un jour à Béatrice d'un air songeur, les deux mains sous la tête et regardant le plafond de la maison Bonnefille. Oui, si elle trépassait, je pourrais fort bien te faire entrer en mon hôtel comme dame de parage de mon épouse. Puisque je recueillerais l'héritage d'Artois, on comprendrait que je reprenne certaines gens de la maison de ma tante. Et ainsi, je pourrais t'avoir toujours auprès de moi. L'hameçon était gros, mais lancé vers un poisson qui avait la bouche ouverte. Béatrice n'entretenait pas de plus douce espérance. Elle se voyait habitant l'hôtel de Robert, y tramant ses intrigues, maîtresse d'abord secrète, puis avouée, car ce sont la chose que le temps installe. Et qui sait, Madame de Beaumont, comme toute créature humaine, n'était pas éternelle. Certes, elle avait 7 ans de moins que Béatrice et jouissait d'une santé qui semblait excellente, mais... quel triomphe, justement, pour une femme plus âgée, de supplanter une cadette. Est-ce qu'un envoûtement bien accompli ne pourrait pas, d'ici quelques années, faire de Robert un veuf? L'amour ôte tout frein à la raison, toute limite à l'imagination. Béatrice se rêvait par moments comtesse d'Artois, en manteau de Pérès. Et si le roi, comme cela pouvait aussi survenir, trépassait, et que Robert devint régent? En chaque siècle, il existe des femmes petitement nées qui se haussent ainsi jusqu'au premier rang, par le désir qu'elles inspirent à un prince, et parce qu'elles ont des grâces de corps et une habileté de tête qui les rendent supérieures, par droit naturel, à toutes les autres. Les dames empérières de Rome et de Constantinople, à ce que racontaient les romans des ménestrels, n'étaient pas toutes nées sur les marches d'un trône. Dans la société des puissants de ce monde, c'est allongée qu'une femme s'élève le plus vite. Béatrice mit, pour se laisser ferrer, juste le temps nécessaire à bien s'assurer prise sur celui qui la voulait prendre. Il fallut que Robert, pour la convaincre, s'engageât assez et qu'il lui eût 10 fois certifié qu'elle entrerait à l'hôtel d'Artois et les titres et prérogatives dont elle jouirait et quelles terres lui seraient données. Oui, alors peut-être elle pouvait indiquer un envoûtement qui, par image de cire bien travaillée, aiguille plantée et conjuration prononcée, ferait œuvre nocive sur Mao. Mais encore Béatrice feignait d'être traversée d'hésitation, de scrupules. Mao n'était-elle pas sa bienfaitrice et celle de toute la famille d'Hirson? Agrafe d'or et fermeaux de pierrerie bientôt s'accrochèrent au cou de Béatrice. Robert apprenait les usages galants. Caressant de la main le bijou qu'elle venait de recevoir, Béatrice disait que si l'on voulait que l'envoûte réussît, le plus sûr et le plus rapide moyen consistait à prendre un enfant de moins de 5 ans auquel on faisait avaler une hostie blanche, puis de trancher la tête de l'enfant et d'en égoutter le sang sur une hostie noire que l'on devait ensuite, par quelques subterfuges, faire manger à l'envoûté. Un enfant de moins de 5 ans, cela requérait-il grand-peine à trouver ? Combien de familles pauvres, surchargées de marmailles, eussent consenti à en vendre un ? Robert faisait la grimace. Trop de complications pour un résultat bien incertain. Il préférait un bon poison, bien simple, qu'on administre et qui fait son œuvre. Béatrice enfin sembla se laisser fléchir, par dévouement à ce diable qu'elle adorait, par impatience de vivre auprès de lui, à l'hôtel d'Artois, par espérance de le voir plusieurs fois le jour. Pour lui, elle serait capable de tout. Elle s'était déjà, depuis une semaine, procuré telle provision d'arsenic blanc qu'elle eût pu exterminer le quartier, lorsque Robert crut triompher en lui faisant accepter 50 livres pour en acquérir. Il fallait maintenant attendre une occasion favorable. Béatrice représentait à Robert que Mao était entouré de physiciens qui accouraient au moindre malaise de madame. Les cuisines étaient surveillées, les échansons diligents. L'entreprise n'était pas facile. Et puis soudain, Robert changea d'avis. Il avait eu un long entretien avec le roi. Philippe VI, au vu du rapport des commissaires qui avaient si bien travaillé sous la direction du plaignant et plus que jamais convaincu du bon droit de son beau-frère, ne demandait qu'à servir ce dernier. Afin d'éviter un procès d'une conclusion si certaine, mais dont le retentissement ne pouvait être que déplaisant pour la cour et tout le royaume, il avait résolu de convoquer Mao et de la convaincre de renoncer à l'Artois. « Elle n'acceptera jamais, » dit Béatrice, « et tu le sais aussi bien que moi, monseigneur. »
« Essayons toujours. Si le roi parvenait à lui faire entendre raison, ne serait-ce pas la meilleure issue ?»«
Non, la meilleure issue, c'est le poison. » Car l'éventualité d'un règlement amiable n'arrangeait nullement les affaires de Béatrice. Son entrée à l'hôtel de Robert se trouvait reculée. Béatrice devrait rester dame de parage de la comtesse jusqu'à ce que celle-ci s'éteignît, Dieu savait quand. C'était elle à présent qui voulait presser les choses. Les obstacles, les difficultés par elle-même soulevées ne l'effrayaient plus. L'occasion favorable ? Elle en avait plusieurs chaque jour, ne fût-ce que lorsqu'elle portait à la comtesse Mao ses tisanes ou ses médecines.
« Mais puisque le roi la convie dans 3 jours à Maubuisson !» insistait Robert.
Les deux amants en convinrent de la sorte. Ou bien Mao acceptait la proposition royale de se démettre de l'Artois, et alors on lui laisserait la vie, ou bien elle refusait, et dans ce cas, le jour même, Béatrice lui administrerait le poison. Quelle meilleure opportunité pouvait-on saisir ? Mao prise de malaise en sortant de la table du roi. Qui donc oserait soupçonner ce dernier de l'avoir fait assassiner, ou même, le soupçonnant, oserait le dire ? Philippe VI avait proposé à Robert d'être présent à l'entrevue de conciliation, mais Robert refusa.
« Sire, mon frère, vos paroles n'auront plus d'effet si je ne suis point là. Mao me hait beaucoup et ma vue risquerait de l'entêter plutôt que de l'encourager à se soumettre. »
Il pensait cela sérieusement, mais en outre il voulait, par son absence, se dérober à toute éventuelle accusation. 3 jours plus tard, le 23 octobre, la comtesse Mao, cahotée dans sa grande litière toute dorée et décorée des armes d'Artois, avançait sur la route de Pontoise. Son seul enfant survivant, la reine Jeanne, veuve de Philippe le Long, était du voyage. Béatrice se tenait en face de sa maîtresse sur un tabouret de tapisserie. « Que croyez-vous, madame, que le roi vous veuille proposer ?» disait Béatrice. « Si c'est un accommodement, souffrez que je vous donne mon conseil. Je vous engage à refuser. Je vous aurai avant peu toute bonne preuve contre Monseigneur Robert. La Divion est prête, cette fois, à nous livrer de quoi le confondre. »
« Que ne l'amènes-tu un peu, cette Divion, qui t'est devenue si familière et que je ne vois jamais ?» dit Mao.
« Cela ne se peut, madame. Elle craint pour sa vie. Si Monseigneur Robert l'apprenait, elle n'entendrait pas messe le matin suivant. Moi-même, elle ne me vient visiter que de nuit à la maison Bonnefille, et toujours escortée de plusieurs valets qui la gardent. Mais refusez fortement, madame. Refusez !»
Jeanne la veuve, en robe blanche, regardait défiler le paysage et se taisait. Ce fut seulement quand les toits aigus de Maubuisson apparurent au loin, par-dessus les masses rousses de la forêt, qu'elle ouvrit la bouche pour dire
« Vous rappelez-vous ma mère, il y a 15 ans ?»
Il y avait 15 ans que, sur ce même chemin, en robe de bure et la tête rasée, elle hurlait son innocence dans le chariot noir qui l'emmenait vers Dourdan. Un autre chariot noir emmenait sa sœur Blanche et sa cousine Marguerite de Bourgogne vers Château-Gaillard. 15 ans. Elle avait été graciée, elle avait retrouvé la tendresse de son époux. Marguerite était morte, Louis X était mort. Jamais Jeanne n'avait posé de questions à Mao sur les conditions de la disparition de Louis Hutin et du petit Jean Ier. Et Philippe le Long était devenu roi pour 6 ans, et il était mort à son tour. Il semblait à Jeanne qu'elle eût vécu 3 vies distinctes. La première se terminait, loin dans le passé, avec l'atroce journée de Maubuisson. Dans la seconde, elle était couronnée reine de France à Reims, auprès de Philippe. Et puis, dans sa 3e vie, elle devenait cette veuve, entourée d'égards mais éloignée du pouvoir, et assise en ce moment dans la grande litière. 3 vies. Et l'étrange impression d'avoir été 3 personnes différentes qui avaient peine à concorder. Sa propre continuité, elle ne la ressentait que par la présence de cette mère imposante, autoritaire, qui l'avait toujours dominée, et à laquelle, depuis l'enfance, elle craignait d'adresser la parole. Mao, elle aussi, se souvenait.
« Et toujours à cause de ce mauvais Robert, » dit-elle. « C'est lui qui avait tout manégé avec cette chienne d'Isabelle, dont on me dit que les affaires ne vont pas fort pour l'heure, non plus que celle du Mortimer, dont elle est la putain. » Ils seront tous châtiés un jour. »
Chacune suivait sa propre pensée. « À présent, j'ai des cheveux, mais j'ai des rides, » murmura la reine veuve.
« Tu auras l'Artois, ma fille, » dit Mao en lui posant la main sur le genou.
Béatrice contemplait la campagne et souriait aux nuages. Philippe VI reçut Mao courtoisement, mais non sans quelque hauteur, et parla comme il sied à un roi. Il voulait la paix entre ses grands barons. Les pères, soutien de la couronne, ne devaient point donner l'exemple de la discorde ni s'offrir au déshonneur public.
« Je ne veux point juger de ce qui s'est accompli sous les précédents règnes, » dit Philippe, comme s'il jetait un voile d'indulgence sur les agissements anciens de Mao. « C'est sur l'état présent que je veux statuer. Mes commissaires ont achevé leur besogne. Les témoignages, ma cousine... ne vous sont guère favorables, je ne vous le peux seler. Robert va produire ses pièces.
Témoignages payés et travaux de faussaires, grommela Mao.
Le repas eut lieu dans la grande salle, celle-là même où, autrefois, Philippe le Bel avait jugé ses 3 brus.
Tout le monde doit y penser, se disait la reine Jeanne, la veuve.
Et elle en avait l'appétit coupé. Or, à l'exception de sa mère et d'elle-même, personne ne songeait plus à cet événement lointain dont presque tous les témoins avaient disparu. Tout à l'heure, peut-être à l'issue du dîner, un vieil écuyer dirait à un autre
« Vous rappelez-vous, messire, nous étions là quand Madame Jeanne monta dans le chariot, et voilà qu'elle revient en reine douairière. »
Et le souvenir s'effacerait aussitôt qu'évoqué. C'est une erreur commune à tous les humains que de croire que leur prochain accorde à leur personne autant d'importance qu'ils lui en attachent eux-mêmes. Les autres, sauf s'ils ont un intérêt particulier à s'en souvenir, oublient vite ce qui nous est arrivé. Et si même ils n'ont pas oublié, leur souvenir ne revêt pas la gravité que nous imaginons. En un autre lieu, peut-être, Mao se fut montré plus accessible aux propositions de Philippe VI. Monarque qui se voulait arbitre, il cherchait l'accommodement. Mais Mao, parce qu'elle était à Maubuisson et que toutes ses haines s'en trouvaient ravivées, ne se sentait pas en humeur de céder. Elle ferait condamner Robert comme faussaire, elle prouverait qu'il était parjure, c'était là son unique pensée. Obligée de mesurer ses paroles, elle mangeait énormément par compensation, engloutissant tout ce qu'on lui présentait au plat et vidant son hanap aussitôt que rempli. La colère autant que le vin lui empourprait le visage. Le roi n'était-il pas en train de lui conseiller tout bonnement d'abandonner son comté à Robert, celui-ci s'engageant à verser à sa tante 40 000 livres l'an ?
« Je me fais fort, disait Philippe, d'obtenir là-dessus l'agrément de votre neveu. »
Mao pensa, « Si Robert en est à me faire proposer cela par son beau-frère, c'est donc bien qu'il n'est pas très assuré de ses titres et qu'il préfère payer une rente de 40 000 livres l'année plutôt que de montrer ses fausses pièces. »
« Je refuse, sire mon cousin, dit-elle, de me dépouiller ainsi. Comme l'Artois m'appartient, votre justice me le conservera. »
Philippe VI la regarda par-dessus son grand nez. Cette obstination à refuser était peut-être dictée à Mao par un souci d'orgueil ou bien par la crainte, en cédant, d'accréditer les accusations. Philippe suggéra une autre solution. Mao gardait son comté, ses titres et droits, sa couronne de pair, pour toute sa vie durant, et elle instituait par devant le roi, en un acte ratifié par les pairs, son neveu Robert comme héritier de l'Artois. Honnêtement, elle n'avait aucune raison de s'opposer à cet arrangement. Son seul fils lui avait été tôt repris par Dieu, sa fille ici présente était pourvue d'un douaire royal, et ses petites filles mariées, l'une à la Bourgogne, l'autre à la Flandre, la troisième au Viennois. Mao pouvait-elle souhaiter mieux ? Quant à l'Artois, il reviendrait un jour à son destinataire naturel.
Car si votre frère, le comte Philippe, n'était pas mort avant votre père, pouvez-vous nier, ma cousine, que votre neveu, aujourd'hui, serait le tenant de la comté ? Ainsi, pour tous deux, l'honneur est sauf, et je donne aux différends qui vous opposent un juste règlement.
Mao serra les mâchoires et agita la tête en signe de dénégation. Alors, Philippe VI montra quelque irritation et fit hâter le service. Puisque Mao en usait ainsi, puisqu'elle lui faisait l'offense de repousser son arbitrage, elle irait au procès, à son gré.
« Je ne vous retiens point à loger, ma cousine, » lui dit-il aussitôt les mains lavées. « Je ne pense pas que le séjour en ma cour vous soit plaisant. »
C'était la disgrâce, et clairement signifiée. Avant de reprendre la route, Mao alla verser quelques larmes sur la tombe de sa fille Blanche dans la chapelle de l'abbaye. Elle-même, en ses volontés, avait décidé de se faire enterrer là.
« Non, Maubuisson, dit-elle, n'est pas une place qui nous aura porté chance. L'endroit ne vaut que pour y dormir morte. »
Tout le long du trajet, elle ne cessa d'exhaler sa colère.
L'avez-vous entendu ? Ce grand niais que le mauvais sort nous a baillé pour roi ! Me défaire de l'Artois, tout aisément, à seule fin de lui complaire. Instituer pour mon héritier ce gros puant de Robert. Mais la main me sécherait au bout du bras plutôt que de céder cela. Faut-il qu'il y ait entre eux long marché de coquinerie et qu'ils se doivent beaucoup l'un à l'autre ? Et dire que sans moi, si je n'avais pas si bien déblayé autrefois les avenues du trône...
Ma mère, murmura doucement Jeanne la veuve. Si elle avait osé exprimer sa pensée, si elle n'avait pas craint d'essuyer une terrible rebuffade, Jeanne eût conseillé à sa mère d'accepter les propositions du roi. Mais cela n'eût servi à rien.
Jamais, répétait Mao, jamais ils n'obtiendront cela de moi.
Elle venait, sans le savoir, de signer son arrêt de mort, et l'exécuteur était devant elle, dans la litière, qui la regardait à travers des cils noirs.
« Béatrice,
dit soudain Mao. Aide-moi un peu à me délasser. J'ai le ventre qui enfle.
La rage lui avait dérangé la digestion. Il fallut arrêter la litière pour que Madame Mao allât se soulager les entrailles dans le premier champ.
« Ce soir, madame, dit Béatrice, je vous donnerai de la pâte de coin. »
En arrivant à Paris dans la nuit, à l'hôtel de la rue Mauconseil, Mao se sentait le cœur encore un peu brouillé, mais elle allait mieux. Elle fit un repas maigre et se coucha.